D'aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du lundi 22 avril 2019. Raissa Girondin et Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres.
Au Mali, Boubou Cissé a été nommé nouveau Premier ministre. Il remplace Soumaïlou Boubey Maïga qui a démissionné jeudi.
En République démocratique du Congo, rencontre entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila.
Au Soudan, la contestation suspend les discussions avec l'armée. Les opposants exigent un transfert du pouvoir aux civils.
Nouvelle explosion à Colombo, Sri Lanka, durant une opération de déminage. 24 heures après les sanglants attentats, le gouvernement pointe du doigt un mouvement islamiste local.
Il s'agit vraiment d'un groupuscule qui s'est fait connaître à partir de 2016, non pas contre les chrétiens, mais contre les bouddhistes.
Puis Volodymyr Zelensky est le nouveau président de l'Ukraine. Cet ancien comédien a récolté près de 75% des suffrages.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au Mali, Boubou Cissé vient d'être nommé au poste de Premier ministre, docteur en sciences économiques, précédemment ministre de l'économie et des finances dans l'équipe de Soumaïlou Boubey Maïga. Il a la lourde charge de former une nouvelle équipe gouvernementale. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Docteur Boubou Cissé a été nommé suite à des rencontres que le président Ibeka a engagées avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition pour discuter d'une part de la situation sociopolitique du pays et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture. Mustapha Ben Barka, ministre secrétaire général à la présidence de la République du Mali.
Décret numéro 2019-0317 PRM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er, Dr Boubou Cissé est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 22 avril par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
Ibeka a chargé Dr Boubou Cissé de former une nouvelle équipe gouvernementale dans l'esprit des conclusions de ses consultations avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition. A signalé que Dr Boubou Cissé a été ministre des Mines dans les différentes équipes gouvernementales avant d'être nommé ministre des Finances et de l'Économie. Dr Boubou Cissé est âgé de 44 ans. Il est né à Bamako où il a effectué ses études primaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, tête à tête, Félix Tshisekedi-Joseph Kabila, ce lundi à Kinshasa. Les deux personnalités ont pendant une heure échangé sur la désignation prochaine du Premier ministre, ainsi que l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui est prévue ce mardi. Un scrutin que boycotte l'opposition qui s'estime sous-représentée. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le Fonds commun pour le Congo de Joseph Kabila et Cap pour le changement de Félix Tshisekedi ont décidé d'unir leurs forces et de gérer ensemble le pays à travers une coalition. Le FCC de l'ancien président de la République, largement majoritaire au Parlement, qui vient en plus de remporter les élections des gouverneurs des provinces, reste la première force politique de la RDC. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont ce lundi évalué cette alliance politique secouée par les résultats des dernières élections, très favorable à Joseph Kabila. Aucun communiqué officiel n'a été rendu public après cette rencontre, mais selon le cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la désignation du prochain Premier ministre, la composition du futur gouvernement, l'équilibre des forces politiques dans les grandes institutions du pays ainsi que l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue ce mardi 23 avril ont figuré parmi les points évoqués par les deux personnalités. Cette élection est boycottée par l'opposition parlementaire qui s'estime sous-représentée. Félix Tshisekedi, pour rappel, n'a toujours pas nommé de Premier ministre près de 3 mois après son avènement à la tête de la RDC. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Soudan, les tensions montent après la suspension des discussions entre les leaders de la contestation et l'armée au pouvoir. Le conseil militaire exige la levée des barrages bloquant l'accès à son quartier général, point de ralliement des manifestants. Morgan Guriek.
Les protestataires, rassemblés jour et nuit à cet endroit depuis plus de 2 semaines, ont promis d'intensifier le mouvement pour obtenir le transfert du pouvoir à des civils. Le Conseil militaire de transition, qui a pris les commandes du pays après la destitution du président Omar el-Béchir, a haussé le ton. Les routes doivent être ouvertes immédiatement pour faciliter la circulation des trains et des autres moyens de transport dans la capitale et les autres États, a déclaré le Conseil militaire dans un communiqué. L'armée insiste en particulier sur la nécessité de laisser circuler les produits essentiels. Le chef du Conseil, le général Abdel Fattah al-Burhan, a condamné le blocage de routes et la fouille de personnes sans en avoir l'autorité. Et sur le plan politique, les manifestants ont annoncé la suspension des discussions avec la hiérarchie militaire, faute de garanties suffisantes sur un transfert rapide du pouvoir aux civils.
En Algérie, la gendarmerie a arrêté l'homme d'affaires Issad Rebrab, considéré comme la première fortune du pays, pour fausses déclarations concernant le mouvement de capitaux selon la télévision d'État. Son arrestation intervient quelques heures après celle de 4 milliardaires, tous hommes d'affaires et membres de la famille Kouninef. Ils sont réputés proches de Saïd Bouteflika, frère de l'ancien chef de l'État.
En Libye, au moins 250 personnes ont été tuées, plus de 1000 autres blessées depuis le début de l'agression des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale Tripoli. C'est ce qu'a indiqué un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sri Lanka, les autorités ont lancé une traque contre les responsables des attentats qui ont fait 290 morts le jour de la Pâque. Le point avec Bagasikpura.
Les autorités ont désigné un mouvement islamiste local, le National Tawhid Jamaat, d'être responsable de ces attaques. Ce groupe s'était fait connaître en décembre dernier par des actes de vandalisme sur des statues bouddhiques. Mais le porte-parole du gouvernement dit avoir du mal à savoir comment une si petite organisation a pu commettre tous ces attentats, suggérant une aide extérieure. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 24 personnes et indiqué que le FBI américain les assistait dans leur enquête. 87 détonateurs de bombes ont été découverts dans une gare de bus de Colombo. La présidence du pays de 21 millions d'habitants a déclaré l'état d'urgence à partir de lundi minuit au nom de la sécurité publique.
Suite à l'élection du comédien Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine avec plus de 70% des voix, les messages de félicitations ont afflué de partout, mais la Russie est partagée. Claire Morin-Jupour.
C'est un triomphe pour le comédien novice en politique, Volodymyr Zelensky.
Je m'adresse à tous les pays de l'espace post-soviétique. Regardez-nous, tout est possible.
Cette élection ouvre une période d'incertitude pour ce pays en guerre aux portes de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a promis de casser le système après de multiples scandales de corruption depuis l'indépendance en 1991. En Russie, la réaction du Kremlin est mesurée. Il est trop tôt pour évoquer la possibilité d'un travail en commun, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Le nouveau président ukrainien est plus conciliant avec Moscou, mais reste fermement pro-occidental.
Le président américain Donald Trump a saisi la justice pour bloquer une assignation des démocrates qui veulent mettre la main sur les états financiers de ses entreprises. L'avocat du président Trump a déclaré que les démocrates utilisent leur nouveau pouvoir au Congrès pour enquêter sur toutes les finances personnelles, les entreprises et même la famille du locataire de la Maison Blanche.
Par ailleurs, le président américain Donald Trump assure que le Congrès n'est pas en mesure de le destituer. Seuls de graves délits ou infractions peuvent aboutir à une destitution, a écrit Donald Trump sur Twitter. Je n'ai commis aucun délit, a-t-il ajouté.
Un tribunal américain a refusé de libérer l'ex-analyste militaire Chelsea Manning, détenue depuis le 8 mars. Elle avait refusé de témoigner contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, à qui elle avait transmis en 2010 des milliers de documents confidentiels.
Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité ce lundi de la décision du président Donald Trump de mettre fin aux exemptions permettant à 8 pays de continuer d'acheter du pétrole iranien. La décision est d'une importance capitale pour renforcer la pression sur le régime terroriste iranien, a dit Netanyahou dans un communiqué. Selon la Maison-Blanche, à partir du mois prochain, la Chine, l'Inde et la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce seront exposés à des sanctions s'ils continuent d'acheter du pétrole iranien.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Le Fonds monétaire international a débloqué 118 millions de dollars afin de soutenir le Mozambique qui a été dévasté par le cyclone tropical Idai le mois dernier. Cette aide financière permettra aux autorités mozambicaines de reconstruire le pays, notamment les infrastructures détruites. Pour le FMI, la priorité doit être donnée aux plus pauvres. En contrepartie, le Mozambique s'est engagé à se préparer à affronter les futures catastrophes naturelles et à améliorer la transparence et la gouvernance. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale vient d'accorder des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA aux 6 États membres de la CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad. Environ 80 milliards de francs CFA iront à la construction d'un nouveau terminal à passagers de l'aéroport de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, tandis que 45 milliards serviront à construire 1000 logements sociaux au Gabon. Le reste des fonds ira à d'autres projets. Terminons avec le géant chinois des technologies Huawei qui va déployer la 5G pour la première fois lors de la CAN 2019 qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Le ministre égyptien des télécoms, Amar Talat, assure que son pays souhaite coopérer avec Huawei dans le domaine de l'intelligence artificielle, du transfert de technologies et de la 5G.
À présent, la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La CAN des moins de 17 ans a livré ses demi-finalistes, mais une polémique s'en est suivie.
Oui, le Nigeria et l'Angola se sont qualifiés dans le groupe A. Dans le groupe B, la Guinée et le Cameroun se sont tirés d'affaires au détriment du Maroc et du Sénégal. Le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekdja, également vice-président de la CAF, dit avoir déposé une plainte auprès de l'institution continentale pour dénoncer l'âge de certains joueurs camerounais. On écoute Fawzi Lekdja.
En tant que Marocain, moi je suis fier des petits jeunes qui sont là, avec leur grinta. Ce sont des jeunes qui ont moins de 17 ans vraiment, qui veulent jouer au football. Mais malheureusement, on ne peut pas jouer avec des différences d'âge qui dépassent 7, 8, 9 ans. C'est pas possible. Ils vont refaire l'IRM en présence des médecins de toutes les équipes pour voir les résultats et voir le test. Le cas échéant, la voie du TAS est ouverte. On va crier haut, on va aller, on va se battre. Il faut aller jusqu'au bout et il faut corriger les choses. Les choses sont flagrantes, sont claires.
Fawzi Lekdja, président de la Fédération royale marocaine de football, au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. La réponse du Cameroun ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, la FECAFOOT balaie ses accusations. Je cite, « La Fédération camerounaise de football, qui ne saurait rester indifférente, range cette sortie médiatique dans le registre du mauvais perdant. »
Une autre plainte est arrivée sur la table de la CAF.
Oui, il s'agit de celle du Sénégal qui accuse la Guinée d'avoir fait jouer des joueurs qui ont trafiqué leur date de naissance. Sont concernés Ahmed Tidiane Keïta et Aboubakar Konté qui auraient utilisé deux passeports différents en l'espace de 2 ans sur des tournois différents. La Guinée a rejeté ces accusations en bloc. En attendant l'issue de ces plaintes marocaines et sénégalaises, on aura les oppositions suivantes en demi-finale, Cameroun-Angola et Nigeria-Guinée. Ces 4 demi-finalistes sont aussi qualifiés par la même occasion pour la Coupe du Monde de leur catégorie qui aura lieu au Brésil en octobre prochain.
En Europe, Sadio Mané est le seul Africain nominé pour le titre de joueur de l'année du championnat anglais.
Et oui, l'attaquant sénégalais de Liverpool et son coéquipier en défense, le néerlandais Virgil van Dijk, sont les deux raids présents sur cette liste. Leur coéquipier égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, ne fait pas partie de la liste des 6 joueurs désignés par l'Association des footballeurs professionnels. On y retrouve aussi les 3 nommés de Manchester City, Raheem Sterling, Bernardo Silva et Sergio Aguero. Et celui de Chelsea, Eden Hazard. Cette saison réussit mieux à Sadio Mané, qui est à 18 buts inscrits en Première Ligue, soit 6 de plus que son record dans le championnat anglais.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Raïssa Girondin et Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le Conseil islamique du Mali a un nouveau président en la personne d'Ousmane Chérif Madani Haïdara. Il a été élu ce week-end à Bamako. Il remplace Mahmoud Diko de Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Pendant 10 ans, l'imam Mahmoud Diko a dirigé le bureau de la fêtière des musulmans du Mali. Quel bilan tirer des 2 mandats de Mahmoud Diko à la tête de la plus grande organisation religieuse du pays, Malik Konaté, activiste.
Et le bureau qui a été dirigé par Mahmoud Diko a joué un rôle capital dans la gestion du pays. Parce que quand on regarde depuis l'accord, c'est-à-dire avec Amadou Toumani Touré, l'accord de la famille. Donc le Haut Conseil islamique a joué un rôle important dans ce combat. Et ensuite, après, avec éducation sexuelle complète aussi, le Haut Conseil a joué un rôle. Et même le départ de Boué, même si c'est Diko, donc le Haut Conseil islamique a joué un rôle très important dans la vie politique du Mali.
Guide religieux et président de l'association Ansar Dine, Ousmane Chérif Madani Haïdara a pris donc les rênes de l'organisation religieuse à l'issue du 3e congrès ordinaire. À défaut de poser des actes majeurs comme son prédécesseur, Haïdara doit commencer par rassembler les musulmans. Django Koulibaly, musulman.
Et je pense que Chérif Madani Haïdara a un grand nombre de fidèles derrière lui. Il peut apporter sa contribution à la reconstruction du pays et surtout le plan qui se trouve au centre là. Et s'il arrive à rassembler tous les leaders et religieux derrière lui, aller au centre et essayer de parler avec les gens pour que les petites querelles là qui existent là-bas puissent prendre fin.
Ousmane Diakité trouve que le nouveau responsable du Haut Conseil peut faciliter le retour de la paix au Mali.
Ousmane Chérif Madani Haïdara, ce qu'il doit faire maintenant, appeler les Maliens les uns et les autres de se donner la main pour que la paix revienne dans notre pays. Tout le temps de tirer entre les communautés, des massacres passés par là, qu'ils parlent, qu'ils fassent tout pour les messages de paix partout en intérêt du pays. Et en plus, s'associer aussi aux autorités, négocier avec qui des droits pour que les islamistes et les djihadistes qui sont en train de tirer tout le temps des militaires maliens sur les cadres d'opération, pour que cela cesse.
Quant à l'activiste Malik Konaté, il souhaite juger le bureau du shérif de Bankoni à la tâche.
Le nouveau bureau du Haut Conseil, on va voir d'abord parce qu'on ne peut rien dire. Mais tout compte fait, le président qui a été élu, Ousmane Chérif Madani Haïdara, même s'il y a eu beaucoup d'opinions autour de ça, dans les cas contraires, s'il reste toujours sur sa ligne, on pourra dire qu'il ne sera pas un président rassemblé comme Diko. Parce que tant qu'on a en tête en disant tel bord n'est pas avec nous, donc je ne pense pas si on sera un président rassemblé, mais peut-être qu'il va changer d'avis.
Il est à signaler que Ousmane Chérif Madani Haïdara, qui est membre fondateur du Haut Conseil islamique, a mis son mandat sous le signe du rassemblement de tous les musulmans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les activités sont restées fermées aujourd'hui à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour protester contre le meurtre d'un médecin camerounais lors d'une attaque des installations de lutte contre la maladie d'Ebola. Il s'agissait d'une énième attaque du genre. Alors qu'est-ce qui explique ces assauts répétés contre des centres de traitement d'Ebola dans la région? Eddy Sango a posé la question à un notable de la région, l'ancien vice-président de la société civile, maître Omar Kavota.
C'est dans la tristesse que nous avons reçu la nouvelle en rapport avec l'assassinat du docteur Richard, ce Camerounais, comme tous ses co-citoyens et ses collègues qui se donnent aux côtés des autres dans la lutte contre cette épidémie en virus Ebola. Et donc, nous devons commencer par condamner cet acte ignoble dont a été victime ces médecins épidémiologistes.
Mais ça fait la 4e fois que les CTE, les centres de traitement d'Ebola ou d'autres installations liées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola soient attaquées. Qu'est-ce qui explique cela?
Nous pouvons expliquer cela par une sorte de campagne d'intox qui a été menée. Bien sûr, une campagne détox menée par certaines personnes mal intentionnées et même certains leaders politiques qui, pour des raisons populistes et électoralistes, ont en fait mis de l'huile sur le feu pour considérer, pour amener la population à ne pas adhérer à cette stratégie de riposte. L'intox consistait en fait à démontrer que la maladie à virus Ebola n'existait pas et qu'il y aurait des agendas politiques ou politiciens derrière cette épidémie et que c'était une stratégie du régime sortant à pouvoir anéantir la population ici. Et donc, ce genre de campagne d'intox ajoutait au fait que la maladie était une nouveauté. C'était du jamais vécu, sans rencontrer d'autres rumeurs qui s'installaient au départ, étant donné que une maladie qui ravage et une maladie qui consumait finalement la population, une maladie de cette ampleur ne s'était jamais vécue. Et même la mobilisation du monde entier par rapport à son éradication face à une population qui était en face d'une insécurité inouïe, des actes terroristes de tout genre, de massacres, et qui n'avaient pas encore assisté à une mobilisation de la part du monde. En fait, c'est comme ça que les intox ont eu de la place.
On a l'impression que ce sont des étrangers qui sont visés, là, ceux qui interviennent dans le cadre de l'éradication ou de la lutte contre l'Ebola là-bas.
Non, il ne faudrait pas croire que c'est seulement les étrangers qui sont visés. Ce sont les prestataires des services qui sont engagés la riposte contre Ebola, qui sont la cible de ce malfrat qui ne gère que déstabiliser l'accès à la riposte. Parce que si vous voyez le victime, s'il faut le compter depuis le début des incidents, ce ne sont pas que des étrangers.
C'était Maître Omar Kavota, notable de la région et ancien vice-président de la société civile.
Votre avis, votre émission interactive à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous discuterons environnement à l'occasion de la journée de la Terre. Que faites-vous pour protéger la nature? Que faudrait-il faire pour réduire les impacts négatifs des êtres humains sur l'environnement? Venez en discuter et faire part de vos idées en direct ce soir dans l'émission À votre avis en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Alors que la tension monte au Soudan entre les leaders de la contestation et l'armée au pouvoir, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont confirmé leur soutien à Khartoum. Les deux pays ont fait un dépôt de 500 millions de dollars auprès de la Banque centrale soudanaise. Riyad et Abu Dhabi ont également débloqué 2 milliards et demi de dollars pour financer les besoins de la population en produits alimentaires, médicaments et produits pétroliers. Sur les relations entre Khartoum et certains pays du Golfe, Morgane Guériec a joint Roland Marchal. Il est chercheur au CNRS à Paris.
Les Émirats surtout, l'Arabie Saoudite avec plus de nuances, sont hostiles à un pouvoir islamiste. La fin d'Omar el-Béchir, c'est la fin d'un certain type de pouvoir se revendiquant de l'islam politique. Et disons, à quelques individualités près, la junte n'est pas islamiste, même si deux postes importants sont tenus par des islamistes. La deuxième chose, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont absolument hostiles à tout mouvement populaire qui entraînerait des changements politiques. Leur grande opposition au printemps arabe, dans la crise qui se déroule aujourd'hui au Soudan, un pays qui est important pour eux, notamment à cause de sa frontière sur la mer Rouge, il ne faut pas que le mouvement populaire gagne. Cela pourrait être une indication pour plus d'incitation à la contestation sociale et politique partout, et notamment dans le Golfe. Et puis troisième point, le nombre varie suivant les sources, mais à peu près de 6000 hommes, donc soldats soudanais, impliqués dans le conflit au Yémen.
Quelle est l'importance de cette présence au Yémen pour l'Arabie Saoudite? 6000 hommes, c'est pas tant que ça?
C'est quand même un conflit qui est largement combattu du côté saoudien et yéménite par quelques yéménites, mais aussi beaucoup de mercenaires. Plus les forces spéciales émiratiques qui sont très bonnes sans doute, mais d'un point de vue technique, mais très peu nombreuses. Donc, si vous voulez, 6 000 hommes, ça vous permet de stabiliser un territoire, même si, effectivement, ces soldats-là ne sont pas impliqués dans les combats en première ligne.
Et pourquoi les Soudanais sont au Yémen ?
Le général Omar el-Béchir a toujours essayé, dans les dernières années, à cause de la crise économique, de maintenir les canaux ouverts et avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar. Le Qatar est un ami de très longue date du régime, des liens chaleureux avec les islamistes soudanais depuis la fin des années 70. Comme le Soudan a énormément besoin de vis fort, l'Arabie Saoudite fait beaucoup de promesses et en même temps paye quand même un peu.
C'était l'analyste politique Roland Marshall, joint à Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Sri Lanka a désigné un groupe islamiste local pour les attentats du dimanche de Pâques qui ont fait près de 300 morts. Le National Tawhid Jamaat a fait parler de lui la première fois en décembre dernier lorsque ses membres ont vandalisé des statues bouddhistes. Que sait-on de ce groupe islamiste sri-lankais ? Idriss Fall a joint Eric Meyer, professeur émérite à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à INALCO à Paris et auteur de plusieurs ouvrages sur le Sri Lanka.
Il s'agit vraiment d'un groupuscule qui s'est fait connaître à partir de 2016, non pas contre les chrétiens, mais contre les bouddhistes, comme vous l'avez dit. En fait, les musulmans avaient été victimes d'attaques de la part des bouddhistes au cours des années précédentes. Et il semble que le leader de ce petit groupe ait voulu les venger en quelque sorte. Il est peu probable que ce groupe en lui-même ait eu la capacité de mener des attaques d'une telle ampleur. Il faut supposer qu'il y a eu certainement de la part d'organismes extérieurs une aide stratégique, ou en tout cas une aide considérable.
Pourquoi s'en prendre à des symboles chrétiens, et notamment le jour de Pâques alors ?
Là, c'est une vraie question. Il n'y a absolument aucune histoire d'opposition entre les chrétiens et les musulmans au Sri Lanka. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il s'agisse d'une sorte d'exportation à Sri Lanka de tensions qui existent effectivement entre musulmans et chrétiens dans des pays comme les Philippines ou l'Indonésie. Et l'on sait qu'un certain nombre de Sri Lankais ont été dans les rangs de l'État islamique au cours des dernières années. Il est possible qu'à leur retour, ces Sri Lankais aient réimporté une idéologie qui ne correspond pas du tout à la tradition sri lankaise.
Et quels sont les risques maintenant pour ce pays où il y a eu tout le temps eu des tensions religieuses intercommunautaires ?
Alors, les tensions, en fait, durant la période du conflit séparatiste tamoul n'étaient pas vraiment de nature religieuse, puisque les tamouls, ce n'était pas au nom de leur religion, puisqu'il y avait parmi eux aussi bien des catholiques que des hindous. C'est pas au nom de la religion qu'ils s'étaient élevés contre le gouvernement sri-lankais. Donc, la nature du conflit, si conflit il y a aujourd'hui, est différente. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un conflit entre musulmans et catholiques, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment l'importation d'une idéologie totalement extérieure et totalement étrangère à l'île.
On a dit que le gouvernement avait été averti auparavant de risques d'attaque de ce groupe. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises en amont ?
Il y a certainement des erreurs dans la mesure où le gouvernement est extrêmement divisé. La situation politique est très confuse actuellement à Sri Lanka puisque le président a cherché à destituer le Premier ministre pour faire revenir l'ancien président à sa place. Et donc, cette situation extrêmement confuse a fragilisé le pouvoir politique. Et c'est peut-être, en fait, cette fragilité qui a attiré ces attentats parce que Sri Lanka apparaissait comme une cible facile.
C'était Eric Meyer, professeur émérite à l'INALCO à Paris, auteur de plusieurs ouvrages sur le Sri Lanka.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Regis Audrius. Présentation, Raissa Girondin et Abdourahman Dia.
Restez connectés sur notre page Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Le monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.